un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui commence à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, lors d'un pot de départ à la retraite, dans un parc à côté de l'usine Safran Aircraft, Engine. Ici, on fabrique des moteurs d'avion. De nombreux ouvriers ont passé toute leur vie dans cette entreprise. Des carrières longues, 30 ans, 40 ans de maison, des métiers parfois pénibles et forcément des départs anticipés, retraite autour de 60 ans ou même avant, si les salariés ont activé leur compte épargne-temps. Sauf que voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au printemps dernier, le 14 avril précisément, la réforme des retraites était adoptée grâce au recours à l'article 49.3 de la Constitution, repoussant l'âge légal de départ à la retraite et la durée des cotisations. Alors ceux-là, qui sont nés entre 1961 et 1965, carrière longue ou métier pénible ou les épargnants du temps, et pas seulement chez Safran, ceux qui ont quitté leur entreprise et changé de vie, dont le poste a parfois été supprimé ou remplacé, eh bien les gars, il va falloir retourner au travail. Ils ont pourtant pris leur carton d'affaires, organisé le pot, versé des larmes ou pas, dit au revoir et rendu les clés. Mais ça n'est pas fini. Tout de suite, l'histoire de Patrick par Martine Abatte, précédée de ce pot de départ à la retraite.
Ah mais toi non plus, je te reconnaissais pas. T'as pris du poids depuis que t'es à la retraite, toi.
Voilà les collègues de 40 ans. Ben ouais, hein. Tous rentrés à 19, sortis à 60.
Et toi, combien de... Combien ?
15 mois, je crois. Voilà.
Il va falloir que tu reviennes 15 mois ici ?
Ouais.
Oh là 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 là.
Malheur.
Bon, je m'appelle Olivier. J'ai commencé à travailler à la SNECMA à 19 ans. C'est les réparations de moteurs d'avion. J'ai commencé très tôt, à 19 ans et 3 mois. Je suis resté plus de 15 ans en horaire décalé. Et après, je suis monté dans les bureaux techniques. Et là, je suis repassé en horaire normal. Et donc, depuis, je suis resté chez SNECMA. J'ai eu cette chance que j'ai conservée. C'était une très bonne boîte. Ah, j'ai commencé à réfléchir à la retraite à partir de, allez, on va dire 50 ans. Et on avait un accord chez Safran qui permettait de cumuler des jours en plus sur le CET, sur le compte épargne-temps. Donc ce qui m'a permis de cumuler 4 ans et demi de vacances. Là, je suis en vacances depuis août 2021, mais avec la réforme des retraites, il va falloir que je reprenne 15 mois de travail. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a tout lâché ce qu'on avait dans la région parisienne, donc on a revendu la maison qu'on avait en région parisienne pour ouvrir des gîtes et chambres d'hôtes à côté d'Anduze. Je ne sais pas encore comment je vais faire. J'espère que Safran signera un accord pour qu'il nous permette de parvenir au travail. Mais c'est pas gagné encore.
Alors.
Ah bah là on fait un pot pour un collègue qui part en retraite, mais lui il sera vraiment en retraite. Il n'a pas cumulé du temps partiel, donc il ne sera pas obligé de revenir. Je suis venu exprès depuis Anduze pour fêter le départ de mon collègue.
T'es revenu quand t'as intervenu là ? Tu reviens juste pour le pot ou tu reviens pour travailler ?
Pour le pot. Ah. Tout à l'heure.
Et à partir de quand, Culture
Provence ? Avril 2025.
Il y a 400 personnes dans ce cas-là. Hein. Voilà. Rien que chez Safran Aircraft Engine.
Dépression.
C'est pas évident. Hein. On a passé toute notre carrière à faire à faire des manifestations contre la réforme des retraites. On a commencé en 80, hein, Fifi, 93, 2003. Avec la réforme Fillon, 2010 avec la réforme Sarkozy, 2013 avec la réforme Touraine, et 2019...
C'est quoi votre prénom ?
Didier.
Et là, vous avez invité combien de personnes pour votre pot ?
Une soixantaine, je crois. Et puis voilà, quoi.
Donc parce que là, on est juste à côté de l'usine.
Oui, oui, elle est juste derrière, hein, bien sûr. Hein. Mais j'étais, je suis resté 40 ans chez Safran. J'ai commencé à Boulogne, moi, à 21 ans. Et normalement, je suis à la retraite 1er avril 2024. Mais avec la réforme, je prends 6 mois de plus. Alors, et puis j'ai fait mon temps, mon 40 ans de travail. C'est bien de voir autre chose aussi, hein, la retraite. Ben, on a fait avec ma femme une petite maison en Bretagne. Et puis maintenant, on y va régulièrement. Voilà. C'est ça les projets, c'est changer d'air, c'est partir à droite à gauche. Puis il y a des petits-enfants et tout ça aussi. Hein. Voilà. Puis profiter de la vie. Hein. Moi, j'étais malade. Hein, j'ai une grave maladie. Donc maintenant, hein, faut que je profite. Enfin, mon père, il est mort, il avait un mois de retraite. Donc il n'a jamais profité. Voilà.
Je m'appelle Patrick. J'ai commencé ma carrière à Cogéma. Il y a à peu près une quarantaine d'années. Cogéma, Compagnie Générale des Matières Nucléaires, comme on disait. Cogéma qui est devenu donc Areva. Et puis après, on est devenu donc Orano. Alors, Orano, nous sommes actuellement à peu près 2000 salariés sous statut Orano sur Tricastin. À peu près, je dirais à peu près au moins 1000 salariés sous-traitants qui gravitent sur l'établissement Orano aussi du Tricastin, très gros employeur. Tout le monde qui habite Pierrelatte ou Saint-Paul-Trois-Château a une personne de sa famille qui travaille ou qui a travaillé sur le site d'Orano ou d'EDF. On revient là alors dans les années 1980. C'était l'époque où le chômage montait à vitesse grand V, où on parlait de beaucoup à la télévision des millions de chômeurs, que c'était difficile de trouver un emploi. En fin de compte, on préparait déjà les gens à avoir du mal à trouver du travail, à partir de leur coin, partir de leur région, déjà changer de métier. Et donc, on espérait soit être fonctionnaire, soit rentrer dans une boîte où on espérait faire toute sa carrière, quoi. Et là, je suis tombé sur cette offre d'emploi, j'ai postulé et, je dirais presque miraculeusement, j'ai été embauché immédiatement en CDI, quoi. Alors là, à cette époque-là, franchement, c'était, on gagnait la timbale, quoi. Ça vous permettait de construire un foyer, d'investir dans un logement. Enfin, et puis ça vous stabilisait dans la région. Donc c'était vraiment un vrai bonheur, quoi. Alors moi, j'avais fait plutôt de l'achat, du commercial. Et j'ai eu la chance qu'un emploi commercial se libère à Cogéma, quoi. Donc c'était vraiment, je vous dis, inespéré, quoi. À cette époque-là... De travailler dans le nucléaire, rien que de le dire à votre famille ou des fois à des gens, qu'est-ce que tu fais, toi, comme votre... Ben moi, je travaille à Cogéma. Oh, je comprenais pas l'écologie qui était anti-nucléaire à cette époque-là. Cogéma, c'était une super boîte, quoi. Franchement, un travail d'équipe, franchement, une entreprise rêvée, quoi. Il y avait toute une cohésion, tout un esprit d'équipe, même avec votre hiérarchie, c'était presque du paternalisme. Alors, je ne sais pas si c'était une famille, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, quoi. Enfin, moi, ça m'a stupéfait, parce que dans une carrière, j'ai connu d'une extrême à une autre, quoi, en fin de compte. Ben, je suis passé d'aller travailler en sifflant, en étant content, je suis heureux, je suis un garçon qui a réussi dans la vie, à quand est-ce que je vais partir à la retraite, quoi. J'en ai marre, quoi. C'est venu, en fin de compte, dans les années 90-2000, Cogéma est devenu Areva. On a bien vu quasiment immédiatement la différence au niveau... Alors, Il fallait être concurrentiel, il fallait... Là, on a vu apparaître tout ce qui est les notions de tableau de bord, de fichiers Excel et tout ça, où il fallait gratter les grands plans de rentabilité, où il fallait économiser surtout. On ne savait même pas que problème et effectif pouvaient aller ensemble, quoi. Il y avait toujours le personnel qu'il fallait, où il fallait, en quantité nécessaire. Certains disaient qu'on faisait de la sursécurité. Dans le nucléaire, ça n'existe pas, la sursécurité. La sécurité, ça se monnaie pas, quoi. On fait pas du chocolat, quoi. C'est du nucléaire, quoi. On peut pas se louper dans le nucléaire, quoi. Vous allez pas rappeler vos produits, quoi. C'est pas comme quand vous rappelez des plaquettes de beurre, quoi. Vous devez être irréprochable. On se rendait compte que des activités même qui étaient prises en charge par des salariés à Areva, on les donnait à la sous-traitance pour que ça coûte moins cher. Quand vous voyez aujourd'hui que la sécurité à l'entrée du site, c'est-à-dire quand vous venez montrer patte blanche à l'entrée du site, nucléaire du Tricastin, nucléaire, pour lequel vous, quand vous rentrez, on vous fait une enquête de 6 mois. On vient interroger vos parents, votre entourage, on demande si vous êtes allé à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas des conflits, tout ça. Et maintenant, on a sous-traité ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes maintenant qui sont prestataires et qui donnent l'autorisation de rentrer sur le site. Honnêtement, mais c'était vraiment un choc violent. Ça a altéré mon lien de confiance. Et suite aux deux problèmes, en fait, deux accidents de Fukushima et de Tchernobyl, là, on a vu que le nucléaire n'avait plus le vent en poupe, quoi. Plus personne n'y croyait, les marchés étaient moindres. Enfin, il y avait beaucoup de conséquences qui faisaient que les effectifs du nucléaire décroissaient en France, énormément. Et donc, on a eu des plans de restructuration. C'est là où s'est posée la question de fusionner, en fin de compte, les filiales qu'il y avait sur le Tricastin. Dans une seule entreprise qui s'appellerait Orano et qui ferait qu'on en profiterait pour mutualiser tout le monde. Et là, ça a été le pire. Vous étiez par exemple dans un service où vous aviez par exemple votre collègue de travail qui allait partir l'année prochaine. Vous vouliez prendre sa place parce que c'était très intéressant ce qu'il faisait, tout ça. Et hop, vous avez un gars de la filiale qui est venu. C'est piquant, quoi. C'est piquant et on voit très bien qu'on vous met de côté, quoi. Et c'est là où je dis c'est exécrable. Vous avez l'impression de ne plus faire partie de la famille, de ne plus faire partie de cette société, et qu'on n'entend qu'une chose, c'est que vous barriez.
Malgré toute cette ambiance, vous êtes resté dans cette boîte.
Oui. Le salaire en bas à droite, malheureusement. Oui, oui, contraint, forcé. Parce que d'abord, c'était inexplicable et impossible de quitter cette entreprise pour aller au chômage. À plus de 50 ans.
Parce que quand ça a commencé à se gâter, vous avez...
Après 50 ans, à peu près. Le grand changement, en fin de compte, ça a été, je crois que c'est au début de l'année 2000, où on a eu l'application de l'accord des 35 heures. Areva, à cette époque-là, ça l'embêtait drôlement, quoi. De baisser la durée hebdomadaire de travail. Il aurait fallu embaucher, il aurait fallu prendre des intérimaires, il aurait fallu arrêter les activités, enfin, c'était pas possible. Donc, le patron, il a dit, c'est pas possible, on va créer un compte épargne-temps. Pour faire simple, qui nous permettait d'épargner entre 10 et 15 jours par an. Mon âme à l'an, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, ça pouvait faire une quantité de jours. Bon, il y en a qui ont eu 300 jours épargnés, donc ils partaient 2 ans avant. Enfin. Et donc, quand je suis arrivé à peu près à 2 ou 3 ans de mon départ en retraite, vers 5-7 ans, je me suis dit, tiens, j'ai à peu près 80 ou 100 jours d'épargnés, je vais en profiter puisque je me sens pas bien. J'ai aucune envie de rester au travail. Plus vite je partirai, plus vite je serai content. Donc, je vais faire en sorte de partir le plus tôt possible. Et ils me disent, compte tenu de vos congés, de vos RTT, de vos CI, de vos congés épargnés, des congés l'année dernière, des congés de cette année, enfin tout ça, en septembre 2022, vous pouvez vous mettre en congé et ne plus venir travailler et être en congé jusqu'au 30 septembre 2023 et vous basculerez en retraite le 1er octobre. Donc c'est parti comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais partir en vacances cet été et je ne ferai plus jamais la rentrée. J'étais comme un gosse, quoi. J'étais content, mais je ne pouvais pas savoir. Tout le monde me disait, ouais, mais peut-être, tu vas regretter, tu vas t'embêter. Je vais m'embêter. Non, 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 je ne m'embêterai pas, je sais que je ne m'embêterai pas. Ma femme ne me comprenait même pas. J'en avais tellement marre d'aller au travail que quand j'ai vu que cette date était plutôt que ce que je croyais, j'ai dit, oh, trop bien. Et puis je le dis à tout le monde. Hein. J'en ai même saoulé, quoi, des gens. Parce que j'étais trop, trop content. J'ai dit, ouais, moi, alors 59 ans, taillot. Je suis en retraite, puis même je ne me considérais pas congé. Je disais, je suis en retraite. Une semaine avant, j'ai commencé à faire mes cartons dans mon bureau. J'ai pris quelques affaires personnelles que j'avais. Oh, des anciens fiches de paye, des bricoles, enfin, peut-être une ou deux photos. Enfin, et puis j'ai fait mon carton, comme on voit des fois dans mes films, quoi. Je suis parti avec mon petit carton et dans ma voiture. Pas une larme, pas une amertume. Tout le monde savait que je partais, parce qu'il y avait un calendrier commun où mon dernier jour était marqué. Ça faisait 3 mois qu'il était marqué, ce dernier jour. Donc tout le monde savait le jour où je partais. Je crois que j'ai eu 1 ou 2 messages, je crois, de collègues de travail, pour me dire, Philippe, tu vas partir, peut-être on se verra pas. Voilà. Personne n'est venu me dire au revoir. Ça ne m'a pas déçu. Le milieu dans lequel je travaillais était détestable. Mon grand chef venait pas me dire bonjour le matin. Il venait que s'il me tombait dessus, quoi. Il tombait dessus sur moi dans le couloir. Pour lui, j'étais un pion, j'étais un nom sur le planning. Après, mon planning, ils ont dû supprimer le nom, puis voilà. Un abruti de moins, puis voilà. Ils sont contents. Ils ont fait moins 1. Il aura une prime plus importante à la fin de l'année. Parce que leur objectif, c'était bien ça. C'est bien de diminuer le personnel aussi. De ne pas remplacer les gens. La vie professionnelle est terminée. À mon goût, j'ai presque trop travaillé, parce que je trouve que 42 ans, c'est... Je trouve que c'est beaucoup, honnêtement. Surtout que moi, je ne me suis jamais arrêté. J'ai commencé à 18 ans, donc je pouvais rentrer dans le dispositif qu'on appelait carrière longue. Je me disais, bon, c'est super, c'est une bonne reconnaissance, c'est un bon dispositif, et j'en suis très content, quoi. Voilà. Je suis parti, j'ai pris ma voiture, j'ai pris mon carton, je suis parti... Ça m'a rien fait. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit, ça y est, je retourne plus au boulot. Fini, c'est fini.
France Culture. Les pieds sur terre.
Septembre 2022, je suis pas rentré à l'école Orano. Et on voulait vendre la maison. Et partir à côté de Sète. Parce que c'est un endroit où on allait en vacances tous les ans. Et puis on s'était dit, à Sète, il n'y a pas de Mistral. C'est pas très loin. On pourra revenir voir les enfants et les petits-enfants. Et puis quand même, il fait meilleur. C'est sympa. Ça fait vacances. Et puis, paf, mois de décembre, Macron, il commence à nous dire qu'il veut remettre le dossier retraite sur la table. Éventuellement le faire passer dans un projet rectificatif, tout ça, en 2022. Je suis fou. Enfin, bon. De toute façon, moi, je suis parti, je m'en fous. Et puis, en février, on commence à voir plein d'articles sortir. Ça pourrait concerner tel âge, peut-être 63.
Putain, 1963, ouais. C'est votre date de naissance.
Ah, mais j'ai commencé à être tétanisé, quoi. Je me suis dit, mais il va pas faire ça, quoi. Je peux vous dire, je suis tombé dans un moment de sidération. Je dis, mais c'est pas possible de mettre en place une loi qui concerne des gens qui sont déjà partis ou qui ont anticipé de 6 mois leur départ en retraite. Il est fou, ça devrait pas être légal, quoi. Je le considérais presque comme une loi rétroactive, quoi. Mais ceux qui sont là, ceux qui partent cette année... En 2023, il ne peut pas changer les règles, quoi. C'est pas possible. Alors, bien sûr, moi, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fais? Ça ne te concernera pas, tu fais du souci pour rien. Enfin bon. Tout le monde autour de moi me dit, mais t'inquiète, Le temps que ça soit voté, que ça passe à droite, à gauche, pouf, tu seras déjà en retraite. J'y croyais sans y croire. Honnêtement, j'ai toujours été perplexe. Et puis je reçois une lettre recommandée avec accusé de réception, début avril 2023, d'Orano. Et je vois, sur cette lettre, comme quoi je rentrais dans le projet de loi de réforme des retraites et qu'il fallait que je prenne contact avec une DRH pour voir comment je voyais les choses, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Immédiatement, j'appelle, quoi. Donc, je tombe sur la personne. Je lui dis, mais je comprends pas. De quoi vous me parlez? Pourquoi je serais concerné, tout ça? La loi, elle est même pas passée au Conseil constitutionnel. Peut-être qu'il y a des articles qui allaient être toqués. Oh non, mais monsieur, c'est comme ça. Moi, j'ai un tableau Excel. Sur le tableau Excel, vous y êtes. C'est-à-dire, vous devez faire cotiser plus de trimestres et vous devez faire partir à 60 ans et 9 mois. Au lieu de partir le 1er octobre, elle me voit partir le 1er juillet 2024. Elle propose 3 propositions. On vous lisse votre rémunération sur les 9 mois qui restent à faire. C'est-à-dire, actuellement, je suis toujours payé en RTT, quoi, si vous voulez, quoi. Donc, j'ai épargne, fait de carrière. Il restait 5 mois à me payer. Les 5 mois, il me les lisse sur 14. Et donc, vous recevrez à peu près 60% de votre rémunération. Ou alors, vous mettez en congé sans solde. Je dis, mais congé sans solde, c'est idiot, vous me disiez ça. Parce que les 2 trimestres qui me manquent, si je n'ai pas de cotisation, je ne les aurai pas. Bon. Ou éventuellement, vous pouvez revenir travailler. Ben, j'ai dit, tiens, ben, pourquoi pas. Et là, comme si je la voyais en face de moi, j'ai vu quelqu'un au bout du fil qui ne s'attendait pas du tout à cette réponse-là. Qui n'avait même pas imaginé qu'un salarié pouvait revenir travailler. Et je lui ai dit, mais écoutez, rien gagné. Ou gagner 60% de mon salaire, c'est impossible. Tous mes crédits, toutes les charges financières que j'ai pour vivre tous les mois, j'ai dit c'est impossible. Donc, répondez-moi avant le temps d'avril. Parce que dans ma tête, je parle le 1er octobre quand même, j'essaye encore de me raccrocher encore à cette possibilité. Je suis en apesanteur, comme on dirait. Je vous cache pas que j'ai dû aller voir un psychiatre. Hein. J'ai pas pu gérer. Je prends un antidépresseur, un Xanax, un anxiolytique. Ça a été terrible parce que ça m'a bousillé d'ailleurs. Le début de ma retraite, quoi, en fin de compte. Je dirais depuis le mois de mars, quoi. Que je sais que je suis concerné à 9 chances sur 10, quoi. Et bien depuis mars, je suis allé voir mon médecin et puis je lui ai dit je peux pas. Je ne peux pas, j'arrive plus à dormir, j'engueule ma femme, je suis impossible, j'arrive pas à gérer, quoi. C'est malgré moi, quoi. Vous rendez compte si je dois retourner travailler, vous rendez compte si... Je ne peux pas prendre les autres solutions. Je ne pouvais pas me passer de la moitié de mon salaire et je ne pouvais pas ne plus cotiser. Donc c'était pas des solutions pour moi. C'est-à-dire, il faudra que je retourne travailler le 1er octobre, quoi. Moi, je pense que Orano avait envie le plus rapidement possible de se dédouaner de ce problème-là. Ils ne veulent pas être impactés de 1 euro par la réforme. Je sais bien que l'entreprise, dans ce cas-là, elle y est pour rien. Mais qu'elle se mette à la place, le salarié non plus n'y est pour rien. Comme on dit dans le minuit, on est tous les cocus de l'affaire, quoi. Ces gens-là sont instruits, compétents, intelligents. On n'arrive pas à faire une réforme qui se calque sur la vraie vie des gens. Et moi, je veux vous dire, moi j'ai écrit à des sénateurs, j'ai écrit même au président du Sénat, j'ai écrit à l'Assemblée nationale, à certains députés, à mon député, j'ai écrit à Dussopt, à la Première ministre. Je lui ai expliqué mon cas. Je n'ai eu aucune réponse. Aucune réponse. Donc je serais peut-être obligé de revenir travailler 9 mois à partir du 1er octobre 2023, dans le cas le plus probable, malheureusement, Et je me présenterai au poste de garde pour voir dans quelle unité je vais être affecté, quoi. Mon poste, il est supprimé. Mon poste, il a été réparti sur 3 ou 4 personnes. Ils seront obligés de me mettre à faire autre chose, quoi. Comme je dis, moi, ils vont mettre une chaise devant la machine à café, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Je suis écœuré. Ah non, non, mais je vais y aller en reculons, quoi. Je sais pas si j'irai en voiture, j'irai peut-être en vélo, d'ailleurs.
C'était Le Faux Départ, un reportage de Martine Abad réalisé par Somaya Dabesh et mixé par Grégory Vallon. Merci à Alain Pêcheron, à Stéphane Écoutin, à Thomas Puyo, à Benoît Martin, à Didier, à Olivier, ainsi qu'à Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Hortense Martin, notre stagiaire.
Vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La donna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze.